À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Sainte Elizabeth Ann Seton. C'est une Américaine. Et c'est la première sainte américaine, mère de 5 enfants, convertie de l'anglicanisme qu'on appelle aux États-Unis l'Église épiscopalienne. Et elle est morte en 1821. Vous direz qu'elle est morte il y a bien longtemps. C'est vrai qu'elle est morte jeune, mais elle a eu une vie absolument remplie d'émotions, de drames, de morts, de fondation d'une des plus grandes congrégations américaines, dans la congrégation de religieuses qu'elle a fondée, les Sœurs de Saint-Joseph, ou de la Charité de Saint-Joseph. Il y a eu, à un moment donné, 5000 sœurs. On les voyait venir à Montréal, elles venaient par bande autrefois, avec leurs costumes assez remarquables. C'était vraiment Elizabeth Ann Seton, une femme remarquable dans l'esprit de Saint-Vincent de Paul. Le père d'Elizabeth Ann Seton, enfin son vrai nom à Elizabeth Ann, c'est Elizabeth Ann Bailey. Aujourd'hui, elle n'aurait pas changé de nom, elle a pris le nom de son mari. Alors elle est canonisée sous le nom de son mari. Mais c'est une autre époque, hein. Alors, son père, Richard Bailey, c'était un excellent médecin, le docteur Bailey. Et il en était fier, d'ailleurs. Et sa jeune femme, à lui, au docteur Bailey, qui s'appelait Catherine, s'est rendue bientôt compte là, que la médecine tient un peu trop la première place dans la vie de son mari. À peine la première année s'est écoulée de leur mariage, que déjà le docteur Bailey laisse sa femme à New York pour se rendre à Londres pour parfaire ses études de chirurgie. Et pendant qu'il est en Angleterre, eh bien, sa femme, Catherine, met au monde son premier enfant qu'elle nomme Mary Magdalene, Marie-Madeleine. Un an après la naissance de Mary, le docteur Bailey revient de Londres à New York pour poursuivre une carrière de médecin qui va faire de lui un pionnier. Dans l'art médical américain, il est très réputé. Chirurgien, le 28 août 1774, c'est à peu près au moment, n'est-ce pas, de la grande révolution américaine, 1776. Donc, le 28 août 1774, sa femme, Catherine, met au monde une deuxième fille, et le docteur Bailey et sa femme, qui sont épiscopaliens, comme je vous ai dit, la baptisent Elizabeth Ann. Bailey, donc, qui plus tard va devenir Madame Seton. Elle va être veuve à 28 ans, avec 5 enfants, et puis elle va devenir Sainte Elizabeth Ann Seton. Seton, c'est S-E-T-O-N. Très connue aux États-Unis. L'endroit où elle est ensevelie est un lieu de pèlerinage. Elle est même, parce qu'elle a traversé l'Atlantique quelquefois, elle est même patronne des marins aux États-Unis. Et c'est, je vous le rappelle, la première sainte américaine. Son prénom, Elizabeth Ann, a donné le nom de Lisiane. Et Lisiane Gagnon, à la presse, a comme patronne Sainte Elizabeth Ann Seton. Vous pourrez le lui dire si vous la rencontrez. Lisiane Gagnon, du journal La Presse. C'est un joli prénom, d'ailleurs. Et c'est une belle patronne qu'elle a. Grande patronne. Madame Bailey, donc, sa mère meurt peu de temps après avoir mis un autre enfant au monde. Et elle avait été mariée au docteur, puis plus ou moins à sa profession, durant simplement 8 années. Pénible, d'ailleurs. Alors, en juin 1778, le docteur Bailey se remarie. Il épouse Charlotte Barclay. Ça ressemble beaucoup à son nom, Bailey Barclay. Et sa deuxième femme, donc Charlotte Barclay, lui donne 7 enfants. 7 enfants. Mais les deux enfants du premier lit, le Mary Magdalene et Elizabeth Ann, ne se sentent pas très à l'aise dans cette famille. Afin d'apaiser le désaccord entre cette deuxième femme et ses deux premières filles, ben le docteur Bailey envoie Mary Magdalene et Elizabeth Ann, la future sainte Elizabeth Ann, chez son frère William à New Rochelle. New Rochelle, dans l'État de New York. Et l'oncle William est un bon homme. C'est un homme vraiment très charmant. Il y a une propriété qui longe Long Island South, puis Elizabeth Ann, notre future sainte, pendant ses randonnées solitaires là, sur la grève, elle découvre déjà dans son âme la beauté puis la richesse de la nature. C'est déjà un début, hein. Et puis, pour compenser l'indifférence de son père, ce médecin trop occupé, elle se met à 8 ans à chercher dans la nature son père du ciel. Et elle écrit à ce sujet, ah, c'est très émouvant. C'est là qu'on voit que les jeunes enfants ont des sentiments merveilleux souvent. Hein. Elle écrit, chaque feuille, fleur ou animal, chaque insecte, chaque nuage, chaque arbre, devenaient des sujets de pensées vagues et disjointes à propos de Dieu au ciel. Je prenais plaisir à tout. Que ce fût rude, agréable ou aisé, j'étais toujours gai, trouvant ma joie en Dieu notre Père. Elle a déjà une âme très, très, très orientée vers Dieu, mais elle est très concrète. C'est pas une petite fille perdue. Non, 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 pas du tout. Vous allez voir. Et quant à son père, le docteur, mais ses contacts avec lui sont des plus irréguliers. Il retourne en Angleterre lorsqu'elle atteint sa 15e année. Puis durant ses 2 années d'absence là en Angleterre, il réussit même pas, ce docteur Bailey, à trouver quelques instants pour écrire à sa fille Elizabeth Ann. Elle écrit « Mon père est absent, il est peut-être mort ». C'est ce qu'elle écrit dans ses mémoires. Hein. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui vient de paraître, qui est quelques années, « Elizabeth Ann Seton par elle-même » chez Mediapol. Oui, chez Mediapol, les Sœurs de Saint-Paul, là, vous allez trouver ça, c'est pas un très très gros livre. Oh, il a quelque chose comme, mon Dieu, à peu près 300 pages, un peu plus de 300 pages. Ça vaut la peine, c'est très très intéressant. Alors, pendant ce séjour de son père en Angleterre, Elizabeth Ann, que 15 ans, le prend un jour vraiment conscience de la présence divine. Jamais elle n'oubliera ce matin-là, c'est très beau. Elle écrit, « J'étais seule dans les bois ». Le soleil était radieux, les échos variés d'une mélodie joyeuse et printanière. Et les trèfles et les fleurs sauvages cueillis en chemin, un cœur tout aussi innocent qu'il se peut être et rempli d'un amour enthousiaste pour Dieu et d'admiration pour ses œuvres. Oui, Dieu était mon père. Dieu était mon père, mon tout. Je priais, je chantais des cantiques en riant, en pleurant et en me disant qu'il pouvait me mettre bien au-dessus de toute affliction. Puis, je suis resté bien sage afin de jouir de la paix divine qui inondait mon âme. Et j'en suis certaine, pendant les 2 heures qui se sont écoulées comme ça, j'ai fait un bond de 10 ans dans ma vie spirituelle. Alors, doucement mais sûrement, Dieu le Père, son Père céleste, façonne son petit cœur pour le remplir de son amour. Et l'adolescence d'Elizabeth Ann Seton, ou Barclay, est donc marquée par des excès de joie et de tristesse. À l'âge de 18 ans, elle écrit, c'est 1 an avant son mariage, elle va se marier très jeune, « J'étais bien malheureuse, mais Dieu avait trop de tendresse pour condamner une faible créature faite de poussière. » Puis là, en sourdine, elle parle d'une drogue mortelle qu'on appelle le laudanum. Et elle note qu'elle est heureuse de ne pas avoir commis cet horrible forfait. Qu'est-ce qu'elle veut dire? On n'est pas trop sûr. Est-ce que... Il semble bien, en tous les cas, qu'elle ait été attirée par le suicide, peut-être pour rejoindre Dieu le plus tôt possible, nul ne le sait. En tous les cas, ça ne l'empêchera pas de devenir une sainte, et elle pourrait être la patronne de ceux qui ont des goûts de suicide. Invoquez-la, invoquez-la. Alors, cette inconstante Elizabeth, elle tient de ses origines maternelles françaises ses caprices, hein, sa personnalité, son charme naturel et sa beauté, parce que sa mère était un peu française. Et plutôt petite, elle est mignonne et gracieuse et bien faite, c'est une jolie fille. Hein, et ses contemporains admirent ses yeux noirs et brillants et son teint brun, puis c'est très régulier. Elle est mignonne, elle est très jolie, on voit sur les photos, les dessins. Elle a reçu une instruction plus avancée que la plupart des femmes de son temps. Elle possède un esprit marqué, là, du génie du côté de son père, de la famille Bailey. Elle, toute sa mère, elle parle couramment le français. Elle compose des poèmes qui sont pas mal, et puis elle joue du piano, elle est douée d'une intelligence vive et perspicace, et elle a une vivacité, peut-être un peu française, qui déborde en enthousiasme pour le théâtre, la danse et les plaisirs de la société à New York, la grande société New York, au lendemain de la Révolution de 1776. New York est alors la capitale de la nation américaine. Et Miss Bailey est une cavalière accomplie. Elle rencontre sans doute le président Washington dans les sentiers de Manhattan. Et à cette époque, Elizabeth Ann, notre future sainte qui a connu la solitude, est sur le point de faire la connaissance de son futur mari, William Seton. William Seton, c'est le rejeton de grands financiers bien connus de New York. Il va hériter d'une grande fortune. Il est admis dans les premières familles de la ville. Et parmi ses amis, ses connaissances, il compte, si vous connaissez les grands noms de cette époque, là, les Livingston, les Hamilton, évidemment les Bailey, les Roosevelt, les Vanderbilt et bien d'autres. Hein. Et son père, William Seton, a préparé avec soin son fils, qui s'appelle William aussi, qui assumera un jour... la direction des vastes intérêts commerciaux de la famille. Là, le jeune William a étudié en Angleterre, il a visité les centres financiers d'Europe afin d'y rencontrer un bon nombre des associés de son père. Et dans le courant de 1791, le jeune William, qui est élancé, cultivé, qui est très beau garçon, qui est choyé, il fait la connaissance d'Elizabeth Ann Seton, la future sainte, et il s'empresse de lui faire la cour. Et Elizabeth s'épanouit devant la tendresse des attentions de son futur mari et se fiance. Et le 25 janvier, le très révérend Samuel Provost, qui est recteur de l'église anglicane ou épiscopalienne, si vous voulez, de Trinity à New York, et premier évêque du diocèse de New York, uni par les liens du mariage, le William McGee Seton et Elizabeth Ann Bailey. Elle a 19 ans, comme je vous ai dit, et son mari, lui, en a 25. Puis l'avenir s'annonce merveilleux, puis les jeunes époux s'établissent au 27 Wall Street. Wall Street, oui, sur Wall Street. Et à cette époque, vous connaissez ça, Wall Street, hein, à cause de la bourse. Et à cette époque, il y a une enseigne qu'on pourrait dire au-dessus de la porte pour les gens cossus, parce que habiter là, c'est être riche. Et leurs voisins sont les Alexander Hamilton. Puis en mai 1795, bien, Elizabeth Ann donne le jour à une petite fille, Anna-Marie, qui va la connaître comme religieuse, sa mère. C'est assez extraordinaire. L'année suivante vient leur premier fils, William III, ou le troisième, si vous voulez. Petit-fils, toujours le même nom, William Guillaume. Et au début de 1798, ben Elizabeth Ann est de nouveau enceinte à la grande joie des deux époux. Mais avant la naissance de l'enfant, le désastre frappe les Seton. C'est le grand-père William qui a fait William the First, qui est fondateur de la dynastie, qui meurt soudain à la suite d'une chute. Et puis il n'est âgé que de 52 ans. Imaginez. Alors l'effet de sa mort sur son fils est désastreux, irréparable. Et bientôt tout le monde apprend ce que le jeune homme lui-même savait déjà. Il ne possédait pas le génie de son père. Le mari d'Elizabeth ne possédait pas le génie de son père pour les affaires. Fils aîné, il doit en outre accepter la responsabilité d'élever ses frères et sœurs. Et puis Elizabeth Ann, notre future sainte catholique, imaginez, se trouve donc ainsi mère de 9 enfants. 9 enfants. Et elle frôle même la mort à la naissance de Richard, son troisième enfant, qui va lui donner beaucoup de problèmes. Et le docteur Bailey doit employer la respiration artificielle pour sauver son petit garçon. Alors, pendant l'été de 1795, il y a une vague de fièvre jaune qui frappe New York. Alors, le mari d'Elizabeth, William Seton, qui est héritier non seulement d'une fortune, mais de la tuberculose de ses ancêtres, mais il continue à travailler. Il veut garder le contrôle des affaires, faire vivre sa nombreuse famille. Ils sont rendus à 9 enfants. Et il y a la crise mondiale à ce moment-là. Il y a même de la piraterie, oui, de la piraterie sur l'Atlantique. On n'imagine pas ça. Oh, il y a toutes sortes de piraterie aujourd'hui, c'est différent. Et le désordre général dans le monde international de la finance affecte beaucoup. Hein. Alors, les entreprises européennes et américaines, des Seaton, de grandes familles, sont ébranlées. Hein, les assises s'ébranlent. Alors, il est incapable de vaincre puis de contrôler les événements puis les pressions qui s'abattent sur lui, ce pauvre William Seaton qui souffre de tuberculose. Et puis, cette tuberculose est chronique, hein? Il craint pour l'avenir de sa famille, ça l'inquiète tout ça. Il est plongé dans l'apathie à certains moments. À la fin de 1800, 2 ans et demi après la mort de son père, le jeune Seaton perd le contrôle de ses affaires puis déclare banqueroute. C'est terrible. Alors, afin de payer les créanciers, ben Elizabeth Ann, qui a ses 9 enfants sous sa responsabilité, ils vendent leur maison de Wall Street. Et puis, ils regardent en silence les créanciers qui s'emparent de leurs beaux meubles à tour de rôle. Mais ça ne l'affole pas. Elle a déjà une âme très pure que cette Elizabeth Ann. Elle est formidable. Elle accepte ce revers de fortune avec un calme surprenant. Puis là, elle s'installe dans sa nouvelle maison qui est située dans un quartier plutôt simple. Elle écrit à son amie qui s'appelle Julia Scott. Elle dit... Mon mari est en train d'écrire à mes côtés, puis il est en aussi bonne santé qu'il ne l'a jamais été, heureusement. Mes poussins, mes enfants, dorment bien tranquilles. Mon père sourit en voyant la liste des volumes, lui, qu'il a choisi de garder en tant que l'un de nos créanciers. Quant à moi, bien, je considère comme une de mes plus grandes joies de cette vie que d'être libéré enfin des soucis, puis des formalités, puis des mondanités, ce qu'on appelle justement le monde. Mon monde à moi, c'est ma famille. Et grâce au changement, je pourrai me dévouer librement à mon trésor. Mon trésor, c'est sa famille, quoi. Et c'est Dieu aussi. On voit déjà Dieu qui doucement s'empare de son âme. Elizabeth Ann Seaton s'installe à Staten Island pour l'été 1801. Son mari continue à se débattre au milieu des ruines de son commerce. Il vient passer les fins de semaine avec sa famille. Puis Elizabeth... Je trouve que c'est bien étrange. Elle écrit, quelle étrange manière de vivre. Se rencontrer une fois la semaine. Et alors que Will, mon mari, est épuisé de mauvaise humeur. Et pendant ce temps, cet été-là, son père, le docteur Bailey, se dépense sans répit parce qu'il la quarantaine, hein, à cause de la peste et puis la fièvre jaune. Au mois d'août, le docteur Bailey... contracte un mal contagieux de ses patients immigrés, n'est-ce pas, qui amènent toutes sortes de maladies. Et 8 jours plus tard, il en meurt. Il n'est âgé que de 57 ans, et les gens meurent jeunes à cette époque. Et ce même été 1802, bien, elle met au monde Rebecca, le 5e et dernier enfant de William, que son mari. L'état de William s'aggrave, la tuberculose. Et sa femme, notre future sainte, là, suit le conseil du médecin. Elle décide de conduire son mari en Italie. C'est étrange comme conseil, parce que le voyage, on considère que le voyage en mer, puis le changement de climat, va offrir une chance, bien mince peut-être, de prolonger ses jours. On dit que les voyages en voilier, dans le temps, ça prenait 2 mois pour traverser l'Atlantique. Et ainsi, avec Anna, sa fille aînée, dont je vous ai parlé, là, âgée de 8 ans maintenant, bien, William et Elizabeth s'embarquent à New York. Le 2 octobre 1803, en tout ça en dépit des menaces de guerre et des pirates. Voyage inquiétant un peu. Et le voyage, heureusement, se fait sans encombre, et le voilier jette l'ancre à Livourne, en Italie, vers la fin de novembre, donc après près de 2 mois. Et ils sont attendus par un orchestre, etc. Bon. Les événements prennent une tournure tragique parce que les autorités italiennes, qui sont conscientes de la fièvre jaune qui sévit à New York, ne permettent ni aux passagers américains ni à l'équipage de mettre pied à Livourne. Tous sont obligés de passer 1 mois en quarantaine. Puis la station médicale, qu'on appelle en italien un lazaretto, c'est un vaste édifice de pierre qui est construit sur une des rives du canal à plusieurs milles du port de Livourne. Il y a des vents humides, c'est glacial, ça siffle à travers l'édifice, qui ressemble beaucoup plus à une prison qu'à autre chose. Et le pauvre jeune mari William Seaton, forcé de garder le lit, bien tous continuellement, puis souffre d'hémorragie, puis sa femme Elizabeth, bien est indignée d'un tel traitement. Elle écrit « Gardez une personne qui vient de votre pays, dans votre pays pour y sauver sa vie. Le garder enfermé pendant 30 jours entre des murs humides au milieu de la fumée et du vent qui siffle de tous les coins, jusqu'à soulever les rideaux qui entourent son lit. C'est épouvantable, il est si maigre qu'on peut voir percer les os. Et maintenant, l'ombre de la mort descend sur lui, sur mon mari. Il grelotte, il se tient debout pendant quelques minutes, puis il doit aller à Pise dans l'intérêt de sa santé, mais ses chances d'y arriver sont minces. Alors les autorités italiennes, finalement, sont satisfaites qu'aucune contagion de fièvre jaune ne s'est déclarée à bord de leur bateau. Et se décide enfin, le 18 décembre, à lever l'interdit. Puis là, Elizabeth Ann Seton s'empresse de conduire son mari et sa fille, Anna, à Pise. Et dans le nord de l'Italie, comme vous savez. La tour de Pise, où les associés des Seton ont mis une villa à leur disposition. Et c'est là que meurt, oui, que meurt William Seton, dans une maison d'emprunt, dans un pays étranger, 2 jours après Noël, en 1803. Et elle écrit, elle qui n'a que 28 ans, « L'âme de mon mari fut libérée, et la mienne, et elle est incapable d'écrire la suite tellement sa douleur est immense. » Le lendemain matin, Elizabeth Ann Seton, accompagnée d'un groupe d'Anglais et d'Américains, inhume son mari au cimetière anglais de Livourne. Mais les Felici, qui sont des financiers italiens de marque, qui étaient associés et amis des Seton depuis assez longtemps, eh bien, sont là. Et William Seton avait étudié sous les frères Felici, Filippo et Antonio à Livourne. Heureusement, alors la maison Felici avait de vastes intérêts aux États-Unis, une grande famille. Les deux frères Felici avaient des amis dans les cercles financiers américains ainsi que dans la haute société. Alors Filippo, lui, avait épousé une Américaine de Boston, Mary Cooper. Et le général Washington, qui avait reconnu sa compétence puis son intégrité à cet Italien, l'avait nommé consul général des États-Unis à Livourne. Alors ça a aidé beaucoup Elizabeth Ann, parce que ses deux frères ont tout fait en leur pouvoir pour atténuer le triste sort de notre pauvre Elizabeth Ann Seton. Et 4 longs mois s'écoulent avant qu'Elizabeth puisse rentrer dans son pays. Durant cet intervalle, elle visite des chapelles et des églises, et la dévotion des Italiens à genoux durant la messe la touche profondément, elle, épiscopalienne qu'elle est. Elle a entendu dire que les catholiques croient en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Alors l'air de mystère et de paix qui entoure ses adorateurs fortifie la présence réelle. Elle écrit à sa belle-sœur, « quel bonheur serait le nôtre si nous croyons, nous aussi, ce que croient ces gens-là, les catholiques. Ah, qu'ils possèdent Dieu dans ce sacrement, qu'ils demeurent dans leur église, et qu'on le porte à eux quand ils sont malades, quelle merveille. » Alors la petite, qui autrefois cherchait Dieu dans les nuages et au-dessus de New Rochelle, a de la peine à croire que c'est trop beau pour être vrai, se dit-elle. Elizabeth Ann Seton questionne les Felici sur les dogmes catholiques, et tout en exprimant leur désir de voir Elizabeth embrasser le catholicisme, ils savent bien qu'une telle décision n'appartient qu'à elle. Ils lui disent prier et chercher. Au mois d'avril 1804, Elizabeth Ann Seton s'embarque pour New York. Et puis, il faut qu'elle soit accompagnée. Une femme ne voyage pas seule. Alors, Antonio Felici offre de l'accompagner. Et puis, ses 56 jours en mer, hein, il l'instruit sur la religion catholique, mais il s'éprend un peu d'elle, bien qu'il soit marié, ça devient délicat, mais heureusement, Dieu les délivre de cet amour naissant qui serait malheureux puisqu'il est marié. En juin 1804, Elizabeth rentre à New York, sa ville natale. Puis là, elle revoit ses amis et sa famille, et son cœur de mère se gonfle en embrassant enfin ses petits-enfants et en constatant que sa petite Rebecca, la dernière, est en bonne santé. Il fait si bon d'être de retour après plus d'un an et demi. Mais il y a un problème. Elizabeth Ann Seton ne peut secouer facilement son expérience d'Italie. Hein. Le contact avec le catholicisme a changé une fois pour toute sa manière de vivre. Et peu de temps après son retour, elle a une entrevue avec son ancien directeur spirituel, le révérend John Henry Hobart, jeune assistant à l'église Trinity, un anglican. Et depuis le triste hiver où elle a perdu sa maison de Wall Street, le révérend Hobart a guidé Élisabeth. C'était son guide spirituel. Avec tact, il a détourné des idées romantiques et des doctrines émotives de Jean-Jacques Rousseau. Mais là, comment faire pour la détourner du catholicisme? Alors, il la porte vers les œuvres de charité concrètes dans l'espoir de la distraire. Alors, notre pauvre Elizabeth Anne est très mal prise. Elle aime beaucoup son ancien directeur de conscience épiscopalien, anglican. Mais elle sait bien que changer de religion, surtout devenir catholique à New York, comme ça, dans la haute société, va changer l'attitude de plusieurs de ceux qui lui viennent en aide, elle qui est veuve, avec de nombreux enfants. Parce que devenir catholique, c'est quoi, à cette époque, et même encore peut-être aujourd'hui? C'est s'allier à une religion apportée par une classe d'émigrés de bas étage. À l'époque, c'était les Irlandais, puis c'était les Anglais méprisaient les Irlandais. Ils les ont longtemps méprisés. Et en outre, ses ancêtres, tant les Bailey que les Charlton, étaient enracinés dans la tradition huguenote protestante. Et les huguenots américains, eux, protestants, des vrais protestants, là, se rappellent avec amertume les persécutions de l'Église catholique de France. Alors on se lamente, on dit, notre Élisabeth songe à embrasser la religion qui a persécuté nos ancêtres. Et pendant des mois, Elizabeth Ann Seton se sent tiraillée entre le protestantisme de type anglican qu'elle aime et le catholicisme qu'elle ne comprend pas encore tout à fait. Faut dire que dans l'Église épiscopalienne, il y a des branches protestantes puis des branches catholiques. Hein? Alors, elle demande la lumière, mais la lumière ne vient pas. Elle rapporte à une amie la visite qu'elle a faite à l'Église épiscopalienne Saint-Paul, où elle est allée en quête d'un peu de paix. Elle dit « Je me suis mise sur un banc de côté, de sorte que je me trouvais tournée vers l'Église catholique, qui est dans la rue voisine. » Et 20 fois, je me suis surprise en train de parler au Saint-Sacrement là-bas dans l'église catholique, au lieu de regarder l'autel nu là où je me trouvais, et d'écouter la routine des prières. Beaucoup de larmes et de soupirs, silencieuses et profonds. Tout se ramenant au seul désir de discerner le chemin qui est le plus agréable à mon Dieu, quel que soit ce chemin. Alors de plus en plus indécise, Elizabeth Ann Seton est prête à embrasser le catholicisme. Et puis, l'instant d'après, de s'en détourner par crainte de mal faire. Alors, des nuages de doute, évidemment, assombrissent son âme. Hein? Et elle ne peut que crier à Dieu, miséricorde, miséricorde. Et sa vie a été bien souvent marquée de solitude. Et pourtant, jamais elle ne s'est sentie si seule. La conversion est dure. Et tout à coup, durant l'hiver 1805, elle a 30 ans. Les ténèbres se dissipent et le moment de décision arrive et elle écrit à une amie « J'irai paisiblement et fermement à l'Église catholique. Je serai la risée des gens, d'accord, mais c'est sur Dieu que j'ai ancré ma foi. C'est son affaire maintenant. » Alors le curé Matthew O'Brien puis son ami Antonio Felici sont les témoins de sa profession de foi à l'Église Saint-Peter. Le 14 mars 1805, elle a 30 ans, comme je vous ai dit, et ses doutes dissipés, Elizabeth retrouve sa gaieté naturelle. Après sa conversion, elle écrit ce qui suit, c'est intéressant. « Je me trouvais le cœur léger, l'esprit dégagé, et cela pour la première fois depuis de longs mois. » Alors le curé ne lui administre pas, évidemment, le baptême. Non, non, il reconnaît comme valide là, le baptême épiscopalien, qui est presque comme l'Église épiscopalienne, l'Église anglicane, c'est presque comme l'Église catholique romaine. Séparé malheureusement par Henri VIII au début du XVIe siècle. Quelle tristesse. Et il entend sa première confession, puis le 25 mars, le jour de l'Annonciation, Elizabeth Ann, pour la première fois, reçoit l'Eucharistie, que son cœur a désiré si ardemment, puis elle écrit « Dieu est mien et je suis sienne. Maintenant que tout suit son cours, oui, je l'ai reçu. » Elle s'étonne de sa première réaction, elle dit « Au lieu de l'accueil humble, plein de tendresse que je m'étais imaginé lui donner, ce n'était que des explosions de joie et d'allégresse parce qu'il était venu, lui, oui, lui, le libérateur, ma protection, mon bouclier, ma force et mon salut devenu mien pour ce monde et pour l'autre. » Alors, la nouvelle, la conversion de Madame Elizabeth Seton provoque des réactions ont du scandale à la pitié et les uns accusent Antonio Felici, cet Italien, d'avoir profité du désarroi de la veuve. Pauvre Mrs. Seaton, on l'a trompée. Alors on la traite avec commisération. Elle s'en plaint même, elle dit, « Il semblait qu'aux yeux de ma famille et de mes amis, je n'étais qu'une enfant indigne de recevoir son pain quotidien. » Et plus triste encore sont ses adieux au révérend Hubbard, le prêtre anglican qu'elle aime. Elle a toujours estimé. Ses derniers assauts contre sa conversion de sa part là, n'ont pas réussi. Comme tant d'autres, il oublie qu'Elizabeth porte en elle le sang fougueux des Bailey. C'est pour elle un entretien pénible. Mais ma foi, écrit-elle, en sortit plus forte, que si on ne l'avait pas attaquée, parce que ce prêtre anglican, évidemment, a attaqué sa foi catholique. Quelques-uns, avec raison, parce qu'il veut défendre sa brebis qu'il va perdre, comme on pourrait dire, et quelques-uns profitent de la conversion d'Elizabeth Seaton pour lui arrêter l'aide qu'il lui donnait. Et d'autres, par contre, heureusement, l'ont toujours aidé. Ils ont compris quand même. Et toutefois, Elizabeth, fière et indépendante, ne veut pas compter sur la seule charité. Alors, c'est caractéristique de son tempérament, hein. Elle remercie une amie d'un don de $100 en précisant que sa fille Anna pourra s'en servir pour des leçons de danse et de musique. Et elle fait 4 tentatives pour établir des écoles dans la ville, parce qu'elle espère pouvoir ainsi, d'une manière honorable, pourvoir aux besoins de tous ses enfants. Mais c'est inutile, hein. Ceux qui enrôleraient leurs enfants à son école ne veulent rien avoir à faire avec le catholicisme. Alors sa famille lui suggère d'entreprendre autre chose. Puis là, Elizabeth Ann Seaton écrit, un peu irritée, « On me suggère bien des choses, ouvrir une boutique pour y vendre du thé ou de la porcelaine, ou bien encore ouvrir une école maternelle pour des enfants trop jeunes, je suppose, pour que je leur enseigne le « Je vous salue Marie ». Elle est narquoise. Bref, l'on ne sait trop que faire de moi, mais Dieu, lui, le sait. Et quand son heure viendra, nous aussi, nous le saurons. Alors, l'heure de Dieu ne tarde pas. Dieu est toujours là, qui entoure cette femme, qui va devenir la première sainte américaine. Et en dépit d'échecs successifs, Elizabeth Ann Seaton est encore capable de rêver. Elle rêve qu'un jour, lorsque ses obligations envers ses enfants seront terminées, elle deviendra religieuse enseignante. Un beau matin, en prenant une tasse de café au presbytère Saint-Peter catholique, là, elle fait la connaissance d'un sulpicien, M. Dubourg, qui est président du Collège Sainte-Marie de Baltimore. M. Dubourg a entendu parler de la conversion d'Elizabeth et des ennuis qui en résultent. Alors, lorsqu'elle lui confie ses rêves, ce bon prêtre sulpicien ne perd pas de temps. Il est un homme actif et convaincu qu'Elizabeth va trouver facilement bon nombre d'élèves dans la population catholique de Baltimore. Il l'invite à s'établir dans cette ville, puis lui trouve sans délai une maison convenable sur la rue Paca, près du Collège Sainte-Marie. Et Elizabeth est étonnée à la vue de ce qu'elle appelle une superbe résidence de style français. Bon, c'était pas une si belle résidence, j'en ai vu des photos, mais enfin, elle est heureuse. Et M. Dubourg, homme de vision aussi bien que d'action, ben il aide Elizabeth à établir le caractère particulier de sa nouvelle école. Il lui écrit d'ailleurs, « Il y a dans ce pays des écoles mixtes, où les arts sont le seul but de l'éducation. Nous n'en avons aucune, que je sache, où cette acquisition est reliée et subordonnée à une intelligente instruction religieuse. Et c'est ainsi, j'en suis sûr, que vous concevez votre école. » Alors, Elizabeth partage tout à fait la philosophie de M. Dubourg sur l'éducation, une éducation religieuse sérieuse, c'est-à-dire que tous les sujets doivent être subordonnés à une formation religieuse véritable. En juin 1808, Elizabeth arrive à Baltimore avec ses 3 fillettes. Hein, il n'est pas question pour elle d'abandonner ses enfants. Elle y ouvre son école. Ses 2 fils, Richard et William, qui pensionnent depuis 2 ans au nouveau collège jésuite de Georgetown, à Washington, D.C., sont transférés au collège Sainte-Marie de Baltimore pour être près de leur mère. En ouvrant son école, Elizabeth réalise la moitié de son rêve, devenir institutrice. Puis l'autre, c'est d'embrasser la vie religieuse. C'est encore un projet seulement. Mais nul doute que M. Dubourg rêve d'établir une communauté religieuse, lui, sous la direction de notre Elizabeth. Mais que faire de ces 3 petites filles? Ça fait penser à Marie de l'Incarnation puis son fils. Hein? Et Elizabeth, non, c'est rien. Elle se doit en premier lieu à sa famille, qu'elle aime, et elle a l'intention d'assumer pleinement cette obligation. Elle est mère. Mais elle a confiance que la Providence va lui indiquer la route. Et Dieu, en effet, y pourvoit. Dieu veille et agit. Et encouragé par les évêques catholiques et guidé par ses directeurs prêtres, Élisabeth se met à faire des projets. Puis en octobre 1808, 4 mois seulement après son arrivée à Baltimore, 2 jeunes filles de Philadelphie se présentent à elle et puis elle demande la permission de se joindre à la nouvelle communauté religieuse, bien qu'il n'y en ait pas. Alors, à la fin de l'année, Cecilia O'Conway devient la première des filles en religion d'Elizabeth Seton. Et durant l'automne puis l'hiver 1808-1809, ben Elizabeth Seton se sent en assez bonne santé pour assumer la tâche d'établir l'école. Une bonne part du mérite en revient au père Pierre Babade. Des Français, oui, son nouveau directeur spirituel. De même caractère et tempérament qu'Elizabeth, il est rempli de confiance en elle-même, puis en sa vocation. Il est conscient de la soif d'Élisabeth pour la présence de Dieu. Et lui, ce prêtre, il n'hésite pas à aller à l'encontre de la spiritualité de l'époque, puis il lui permet de recevoir l'Eucharistie tous les jours pour l'aider, la conseiller, la fortifier. Et elle écrit d'ailleurs, elle conseille ça à un ami, « Oh, quand on est affaibli de tous côtés, et découragé par ses fautes, et épuisé de péché et d'angoisse, eh bien, ma chère amie, on met tout cela bien doucement à ses pieds. Sauveur miséricordieux, que peut-on comparer à ce bonheur? » Alors, depuis déjà 15 ans, le prêtre Pierre Babade là, voulait établir aux États-Unis les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, très appréciées dans le monde. Alors, il voit en Élisabeth la femme qui va réussir à promouvoir cette œuvre. C'est l'argent qui manque. Mais heureusement, il y a Samuel Sutherland Cooper, récemment converti au catholicisme, ancien capitaine de marine, qui est entré au séminaire à Sainte-Marie des là. Puis tout comme le père Babade, bien il décide d'aider et puis lui, il offre 10 000 $, c'est énorme à l'époque pour l'établissement d'une nouvelle congrégation. Il incite toutefois pour que le nouveau centre soit établi sur une ancienne ferme d'Emmitsburg où elle est enterrée. Elle. C'est à 50 000 de Baltimore. Après avoir hésité longtemps, bien, l'archevêque de Baltimore approuve. Et puis, on nomme Elizabeth Seton comme mère supérieure. Ça y est, elle a 34 ans. Elle a encore des enfants. Elle est supérieure d'une congrégation religieuse. Et elle prononce pour un an ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et dès lors, on la connaît sous le nom de Mother Seton. Et elle est doublement mère, hein? Mother Seton. Et au mois de juin, son petit groupe compte déjà 4 membres et ses nouvelles recrues. Et Elisabeth en tête, là, puis elle revêtit pour la première fois cet habit noir des sœurs de la Charité d'Amérique. Et Mother Seton transfère peu à peu ses religieuses et sa famille à Emmitsburg, où elle est enterrée, comme je vous ai dit. Ses 2 fils quittent le collège Sainte-Marie pour se rapprocher d'elle. Ses 3 filles, Anna, Catherine et Rebecca, ainsi que 2 étudiantes, arrivent avec elle. Et les choses grandissent, et les filles de la charité choisissent le nom de sœurs de charité de Saint-Joseph et commencent leur vie religieuse officielle à Emmitsburg, sous la direction du père Dubourg. Et M. Dubourg, ce sulpicien, directeur des religieuses, résigne sa charge à un moment donné, parce qu'il y a un conflit entre lui puis Mother Seton, puis Monseigneur Carroll, l'archevêque. Il est remplacé par M. Jean-Baptiste David, qui va être très bon pour elle. Mais Mother Seton n'est pas au bout de ses peines. Ce Monsieur Jean-Baptiste David a des idées spéciales et veut transformer les sœurs de Mère Seton, Mother Seton, en vraies filles de la charité, comme celles de France. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut des éducatrices. Alors c'est très compliqué. Sur les entrefaites, mais 2 de ses belles-sœurs qui se sont converties au catholicisme et qui sont entrées dans sa communauté meurent. Quelques mois après la fondation, c'est terrible. Sa fille aînée meurt aussi. Et puis c'est terrible, la mort. Sa fille aînée, qui a 17 ans, meurt en 1812 après avoir prononcé ses vœux comme religieuse. 17 ans, faveur spéciale, quoi. Puis, finalement, Il y a un père Jean Dubois qui a remplacé M. David comme directeur des religieuses. Il est diplômé du collège Louis-le-Grand à Paris. Toujours des Français, comme vous voyez, mais ce sont des gens qui comprennent. Et puis, il a eu comme condisciple deux des révolutionnaires de la terreur, Robespierre puis Desmoulins, imaginez. Mais c'est un homme énergique qui est croyant et profondément sérieux. Ça lui fait un directeur formidable. Alors, il s'occupe du côté terre-à-terre de la vie d'Élisabeth. Il est elle qui tombe malade petit à petit de tuberculose. Et en vient un autre prêtre qui vient aussi l'aider. Simon-Gabriel Bruté, un autre Français qui a été témoin dans sa jeunesse des horreurs de la Révolution française. Et puis, c'est un homme qui est médecin en plus de ça. Alors, on s'occupe d'Élisabeth, on l'indre, et puis on peut lui parler français, c'est merveilleux, on se comprend. Et tout par la Providence et en la Providence, dit-elle. Monseigneur, tu m'as porté dans tes bras tous les jours de ma vie, alors donne-moi d'avoir confiance, de m'abandonner, de regarder le ciel, d'attendre la grâce, d'aimer et de mourir. L'éternité suivra, dit-elle, et pourquoi pas une éternité bienheureuse par mon Jésus. Joie alors, et joie toujours. Alors, c'est constant, elle est dans l'espérance et l'amour, et en dépit de toutes les tragédies personnelles, sœur Elizabeth Seton poursuit l'œuvre de sa vie à travers son Académie Saint-Joseph, où l'on reçoit des pensionnaires aussi bien que des externes. Elle entrevoit la petite semence. Cette petite semence qui va devenir une grande congrégation de 5000 religieuses. C'est énorme. Pas de son vivant, mais après sa mort. Hein, car elle va mourir très jeune. Entre 1809 et 1821, je vous donne un exemple, 19 de ses sœurs et des membres de sa famille sont morts. Presque tous de tuberculose. En 12 ans, 19 morts. Toutefois, les aspirantes continuent à se présenter. Hein. Et puis les difficultés familiales harassent Élisabeth jusqu'au tombeau. En la personne de ses deux fils, là, William et Richard, en dépit de tous les efforts de leur mère pour les établir en affaires puis en d'autres carrières professionnelles, c'est très compliqué. Elle est déjà morte quand William réussit enfin à obtenir une commission dans la marine des États-Unis, où il sert pendant 16 ans, il épouse une fille de bonne famille, il va vivre longtemps, faire une mort pieuse, heureusement, entouré de ses enfants. Et imaginez, un de ses enfants va devenir l'archevêque Robert Seton. C'est plutôt fantastique. Quant à Richard, indécis et malheureux, il arrive à Emmitsburg sans savoir que sa mère est mourante. Il est inconscient, insouciant. Il quitte 15 jours avant que sa mère meure. Plus tard, il fait preuve des qualités de son grand-père, Bailey. Et il meurt en mer d'une fièvre contractée en soignant un ministre protestant. Une seule des enfants d'Élisabeth se trouve près d'elle lorsqu'elle meurt. C'est Catherine Joséphine, qui plus tard entre chez les sœurs de la Merci, une autre communauté. Elle se dévoue pendant 50 ans auprès des prisonniers. Et jusqu'à sa mort, sœur Catherine a porté l'alliance de sa mère dans son testament. Et dans son testament, plutôt, elle a demandé qu'on l'envoie à Emmitsburg pour être mis avec les effets de sa mère dans les souvenirs. Sainte Elizabeth Ann Seton n'a jamais été bien robuste. Vers la fin, elle résume l'histoire de sa vie. « Je suis malade, mais pas mourante. Perplexe, mais pas désespérée. Affligée, mais pas abandonnée. Déprimée, mais pas délaissée. Sachant bien que les afflictions de cette vie ne sont que passagères, tandis que la gloire et la vie à venir seront éternelles. » Alors, quand on lui demande comment elle est, elle dit tranquille, bien tranquille. Elle meurt à l'aube du 4 janvier 1821, à 46 ans seulement. Ses dernières paroles sont les mêmes que celles du pape Pie VII qui avait dit « Que la très juste, très haute, très aimable volonté de Dieu soit en toute chose louée, accomplie, exaltée par-dessus tout, et pour toujours. » Le 17 mars 1963, Jean XXIII a béatifié Mother Seton. 5 mois plus tard, il y a une guérison significative qui a eu lieu. C'est un petit garçon C'est-à-dire, c'est un homme plutôt, Carl Callin, je me souviens maintenant. Carl Callin, âgé de 61 ans, oui, c'est ça. Et c'est un époux protestant d'une catholique. Il est très malade, une méningo-encéphalite, compliqué de rougeole et tout ça. Et son corps, qui devient noir, eh bien, en un clin d'œil, est guéri, au troisième jour. Et le médecin traitant n'en vient pas. On a appliqué une relique de la bienheureuse Elizabeth Seton sur ce malade. Et cet homme se convertit au catholicisme et il assiste à la canonisation de Mother Seton en 1975. Il y a une congrégation qui est originaire de cette grande congrégation en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Mother Seton est une sainte extrêmement populaire aux États-Unis. Et je vous rappelle qu'il y a un livre, Elizabeth Ann Seton par elle-même, par sœur Marie-Céleste, des Sœurs de la Charité, publié chez Mediapol. C'est un ouvrage de 300 pages avec des illustrations qui est très bien fait. Ça se lit très, très, très bien. Il y a aussi celui de Jeanne d'Anne-Marie, une fille américaine de Monsieur Vincent, Anne Elizabeth Seton, chez Grasset, que l'on trouve plutôt dans les bibliothèques. Mais je saurais, j'ose vous recommander, un ouvrage qui s'appelle La vie religieuse. C'est la vie religieuse moderne d'aujourd'hui, dans un esprit de la libération des peuples, libération des âmes, libération des gens. Selon la pensée un peu sud-américaine, c'est de Victor Codina et Noé Zevaros, aux éditions du Cerf. Et on dit bien que c'est écrit par un jésuite et un frère des écoles chrétiennes. C'est l'Église d'Amérique latine qui rassemble déjà près de la majorité des catholiques du monde, a pris une telle importance, c'est en grande partie aux religieux qu'elle le doit. Vous voulez savoir qui sont ces religieux? Eh bien, lisez cet ouvrage, La vie religieuse, aux éditions du Cerf, par le père Codina, C-O-D-I-N-A.